une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Reste un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je vous présente un épisode qui reprend un working paper du NBER d'août 2023. Et oui, rien que ça, on est parfois à la pointe de la recherche dans Splash. Aujourd'hui, on va parler de George Steger, de régression sur discontinuité et de Jérôme Cahuzac. A priori, devenir responsable politique, c'est plutôt un bon choix de carrière en termes de rémunération. Un ou une députée, par exemple, touche chaque mois 5 841 € d'indemnité parlementaire, à laquelle s'ajoute une indemnité de fonction et une autre de résidence. Au total, 7 493 € net par mois, ce qui les place dans les 2% des salariés les mieux payés. Cela dit, il ne s'agit pas vraiment d'un salaire, mais du défraiement auquel ils et elles ont le droit parce que, justement, leur fonction de député les empêche de travailler en même temps. Autre exemple, une présidente de conseil régional touche 5 639,63 € brut par mois, soit 4 400 € net. Un conseiller régional sans commission permanente reçoit quant à lui 2 722 € brut par mois. Ça correspond au tiers supérieur de la distribution des salaires, grosso modo. Autrement dit, des tas de gens gagnent moins en devenant élus régionaux ou régional que si leur carrière avait continué dans le secteur privé ou dans la fonction publique. D'autant que ces élus sont souvent issus des catégories socioprofessionnelles les mieux payées, cadres et professions intellectuelles supérieures. En revanche, si vous êtes le ou la maire d'une commune de moins de 500 habitants, vous n'allez pas faire fortune, du moins pas grâce à votre seul mandat. L'indemnité s'élève à 991,80 € brut mensuel, au taux maximal. Le conseil municipal peut décider de vous verser encore moins, mais c'est rare. Et si vous êtes simplement conseillère municipale, vous touchez 233,36 €. Bref, vous serez bien obligé d'avoir une autre source de revenus. Or, c'est le cas de centaines de milliers de personnes en France. En raison du nombre très élevé de communes, nous détenons le record du nombre d'élus par rapport aux pays de taille comparable. Il y a 500 000 élus municipaux à l'heure actuelle. Très peu d'entre elles et eux sont maires ou adjoints d'une grande ville. Donc, leur indemnité est super faible. Elle ne leur permet pas de vivre uniquement de la politique, sauf cas de cumul des mandats, bien sûr. Et la France n'est pas le pays où on lutte le plus activement contre le cumul des mandats, pour employer un doux euphémisme. Un boulot mal payé, qui vous expose à des responsabilités parfois très lourdes, et à une charge de travail qui empiète largement sur votre vie privée. C'est ça la condition d'une grande majorité de maires en France. De maires M-A-I-R-E-S, hein. Je pourrais aussi vous parler de la condition maternelle, mais en fait, je l'ai déjà fait dans d'autres épisodes. Pourquoi donc accepter ce genre de sacerdoce, me direz-vous alors ? Peut-être pour le pouvoir que ça procure, la symbolique qui va avec, la joie de pouvoir célébrer des mariages, ou la fierté de porter une écharpe tricolore. Et si, pour certains et certaines des élus dont on parle, il y avait aussi une motivation financière ?
Tu sais que j'adore l'argent.
Eh oui ! Devenir élu local, ça permet de se faire des amis à la chambre de commerce, de choisir qui répond à des marchés publics, voire de trouver un emploi à votre petit-neveu dans une boîte du coin. Oui, tout ceci est illégal, bien sûr. Je suis en train de vous parler de corruption. Et la corruption politique a justement pour origine la cupidité de celles et ceux qui utilisent leurs charges pour s'en mettre plein les poches. Notamment lorsqu'ils et elles estiment ne pas être assez bien payés. Quand on parle de corruption, on a en tête des scandales à grande échelle, avec des responsables de premier plan. L'affaire Urba, Silvio Berlusconi, Jérôme Cahuzac ou encore l'inénarrable couple Balkany.
J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre.
Ce sont des affaires qui ont fait la une des journaux, ont occasionné des dizaines d'années de procédures judiciaires, qui ont abouti parfois, mais rarement, à des condamnations spectaculaires. Berlusconi lui-même, je vous le rappelle, a été élu en tant qu'homme neuf à la suite d'une opération visant à éliminer la corruption politique endémique en Italie, Manipolite. Mais à côté de ces affaires retentissantes, il se passe chaque jour des petits pots de vin, des échanges de services, des décisions qui favorisent indûment une entreprise, bref, de la petite corruption faite par des élus mal payés et qui arrondissent ainsi leur fin de mois. Alors, faut-il mieux payer les élus pour éviter la corruption ? Les économistes sont des gens qui reculent rarement devant le cynisme, surtout lorsqu'il s'agit de faire des hypothèses sur la nature humaine. Dans les théories économiques de la corruption, l'hypothèse la plus simple, faite au départ par Gary Becker et George Stigler, et développée ensuite par James Buchanan et Gordon Tullock, c'est que devenir élu est une manière d'atteindre un certain nombre d'objectifs personnels. Parmi ceux-là, on peut trouver le goût pour l'intérêt général, ou encore une idéologie à défendre, ou même le goût du pouvoir en tant que tel. Et pourquoi pas l'enrichissement personnel ? Ça peut être un substitut au pouvoir, si vous n'en avez pas beaucoup. Par exemple, parce que vos décisions personnelles influencent très peu le cours des choses dans une assemblée où vous n'êtes pas seul. Et donc on en vient à la question qui fâche. Est-ce que nos élus cherchent à détourner de l'argent grâce à leurs fonctions? Et notamment, est-ce que les élus les plus modestes ne seraient pas tentés d'arrondir ainsi leur fin de mois? La réponse se trouve dans les données.
On se concentre sur la corruption locale qui correspond à un volume de transactions à un niveau local, municipal. Et en fait, le niveau médian des pots de vin à cette échelle est assez faible, de l'ordre de quelques milliers de dollars ou même des centaines, pas plus.
Je vous présente Pablo Cherubin. Avec Massimo Puleo, que j'ai interviewé avec lui, ils ont mené une enquête sur la corruption des élus municipaux en Italie. Et ils en ont tiré un article tout récent au titre génial « De l'argent et du plomb, comment des salaires plus élevés exposent les politiciens aux violences criminelles ». Eh oui, car on va le voir, quand les élus sont mieux payés, il peut leur arriver des bricoles. Vous allez me dire, oui mais bon, le sud de l'Italie, c'est le territoire de Cosa Nostra, pas étonnant que la corruption y soit élevée. Mais en fait, dans le classement de Transparency International sur la corruption, l'Italie et la France sont assez proches. Elles occupent respectivement la 56e et la 71e place du classement en 2021. Alors revenons à notre question. Comment mettre en évidence le lien entre corruption politique et rémunération des élus? Après tout, plein d'autres variables entrent en jeu ici. La carrière antérieure des élus, leur proximité avec des entreprises qui accèdent à des marchés publics, et bien sûr leur propre moralité, qui est très difficile à mesurer. Pablo Cherubin et Massimo Puleo s'en sont tirés en exploitant une discontinuité dans les données. On écoute Massimo.
Une commune moyenne en Italie, c'est une ville assez petite. Et dans les communes de moins de 5000 habitants, le salaire des élus est légèrement en dessous de 2000 euros par mois. Ce qui est assez proche du salaire moyen en Italie. Et la discontinuité qu'on a identifiée, c'est qu'à partir de 5000 habitants, le salaire des élus passe à 2500 euros. Donc c'est un écart significatif d'à peu près 30%. Ça veut dire qu'on passe d'un salaire comparable au salaire moyen à un salaire bien au-dessus du salaire moyen. Donc c'est une différence importante dans la vie quotidienne des maires et des autres élus municipaux.
Qu'est-ce que cette discontinuité permet d'observer deux choses. D'une part, les élus municipaux des villes de plus de 5000 habitants sont un peu moins corrompus que ceux des villes les plus petites. Ça se voit assez clairement dans les données sur les marchés publics. On parle ici des budgets alloués à des entreprises qui construisent un rond-point ou un centre de loisirs, par exemple, ou encore de la délégation de services publics pour une entreprise qui distribue l'eau dans une commune. Les appels d'offres pour sélectionner une entreprise plutôt qu'une autre sont encadrés par des règles de droit, qui peuvent être plus ou moins bien appliquées. Par exemple, il est possible que l'entreprise finalement sélectionnée ait donné un petit cadeau à Madame la maire et à son premier adjoint. Mais dans les données de nos deux économistes, les affaires de corruption pour favoritisme sont moins nombreuses dans les grandes villes, et ce n'est pas linéaire. Il y a clairement une rupture au niveau du seuil de 5000 habitants. Autrement dit, des élus mieux payés ont moins tendance à se faire verser des bakchiches. Des commissions occultes, si vous préférez. En revanche, deuxième résultat, et c'est le sens du titre de leur article, les responsables politiques mieux payés, qui sont donc moins corrompus, sont plus fréquemment l'objet de violences de la part de la mafia. Eh oui, on parle de l'Italie. L'explication est assez simple. Comme ils et elles n'accèdent plus aux demandes des organisations criminelles qui veulent les corrompre, eh bien ces dernières choisissent de les intimider, voire de les tuer. Et donc on se retrouve face à un gros problème. Mieux payer les élus les détourne des tentations de corruption, mais ça les expose à la violence du crime organisé. Des politiciens mieux payés sont 7% plus susceptibles de faire l'objet d'attaques, et pour certains et certaines d'être blessés ou tués. Évidemment, ce dilemme est largement plus prononcé dans les endroits où la mafia a une influence décisive sur les attributions de marchés publics, et plus généralement sur les biens publics. On ne retrouvera pas autant de pression sur les élus dans les régions où elle est moins présente. J'ai demandé à Françoise Dreyfus, sociologue de la corruption et professeure émérite à Paris 1, si la France était justiciable de la même analyse.
Il faut absolument pas tomber dans ce travers épouvantable qui consiste à dire que tous les élus seraient corrompus et qu'ils seraient tous pourris. Ça, c'est du bavardage médiatique, mais ça n'est pas la réalité. Alors évidemment, tous les juristes qui travaillent sur les marchés publics ont montré en quoi les marchés, effectivement, ouvre la possibilité de manœuvre, si je puis dire, ayant pour objet de hausser les prix ou de les baisser apparemment. Mais en réalité, la hausse, elle est pour le public, c'est-à-dire pour le citoyen qui paye l'impôt. Donc, bon, ça a été très bien montré. Je pense que la France n'est pas dans une situation pire que bien d'autres pays. On a plein d'exemples d'énormes marchés avec corruption plus plus, par exemple, avec Odebrecht dans les pays d'Amérique latine, 12 gouvernements qui ont été corrompus bon, pour des marchés du BTP, évidemment.
Bon, même si Françoise Dreyfus est prudente, on peut au moins se dire que dans tous les pays, France comprise, on peut craindre qu'un certain nombre d'élus deviennent corrompus dès lors qu'ils et elles ont accès à des décisions sur les marchés publics. Et ça pose un gros problème. Est-ce qu'au bout du compte, les gens qui se lancent en politique ne seraient pas davantage disposés à se laisser corrompre que le reste de la population ? Après tout, si vous savez que vous allez gagner des clopinettes, mais que vous aurez du pouvoir et par ce biais un moyen d'arrondir vos fins de mois, ça peut tenter des profils pas très vertueux. D'ailleurs, si on les paye encore plus, qui dit que ça ne va pas encore plus attirer des gens malhonnêtes ? Massimo Puleo.
En fait, il y a beaucoup de recherches qui partent de l'idée que, dans la mesure où la rémunération est faible, c'est une bonne chose, parce qu'on recrute seulement des gens qui sont intrinsèquement motivés par le bien commun. Ils ne font pas ce métier pour l'argent, puisque ça rapporte peu. On peut trouver dans ces fonctions à la fois ceux qui sont intrinsèquement motivés et ceux qui le font seulement pour l'argent. Mais au niveau municipal que nous étudions, si ça se trouve, vous pouvez être motivé, mais si vous n'arrivez pas à gagner votre vie en tant qu'élu, alors ça écarte de ce métier beaucoup de gens motivés.
La recherche en économie a du mal à prouver que les gens qui embrassent une carrière politique sont plus susceptibles de se comporter d'une manière malhonnête. D'ailleurs, ça peut être à la fois dû à leur personnalité de départ, mais aussi au contexte dans lequel ils arrivent et qui altère leur disposition à se laisser corrompre. Pablo Kerubin.
Il y a eu une recherche en Inde qui montrait que les gens qui trichaient le plus, au moins tel qu'on le mesure dans des études expérimentales, eh bien, ces gens étaient plus susceptibles de se présenter aux élections. Et ça, c'est un résultat assez populaire. Les tricheurs sont plus susceptibles de devenir des bureaucrates. Mais ça ne répond pas tout à fait à votre question sur le rôle de la rémunération.
Dans le pire des cas, on pourrait même imaginer que les politiques demandent à être mieux payés parce que sinon, ils seraient incapables de résister à la tentation de la corruption. Personne ne le formulerait exactement en ces termes, bien sûr. Mais on a pu entendre ça et là des députés qui affirmaient une thèse assez proche. Comment voulez-vous attirer les meilleurs talents et les retenir en politique si leur salaire est deux ou trois fois inférieur à ce qu'ils gagneraient dans le secteur privé. Vous voyez qu'on a toutes les raisons de craindre que des responsables politiques mal payés essayent de trouver des compléments de revenus, disons. C'est d'ailleurs l'une des raisons, à mon avis, pour lesquelles les gens qui ne savent faire rien d'autre que de la politique multiplient les mandats, à la fois à une période donnée et tout le long de leur carrière. Ils cherchent à en tirer le maximum de pouvoir, mais aussi tout simplement le maximum d'argent. Enfin, ça demanderait une vraie recherche économétrique pour le prouver, et à ma connaissance, elle n'existe pas encore. Mais on a aussi des raisons de craindre que des élus trop bien payés soient des gens attirés avant tout par la cupidité. Pour un incorruptible façon Robespierre, on trouve beaucoup de petits Jérôme Cahuzac. Cela dit, plus les fonctions politiques sont élevées, plus on surveille étroitement les gens qui les occupent.
En réalité, il est possible que dans les grandes villes, quand il y a des contrats à plusieurs millions d'euros, les occasions de corruption soient plus grandes. Mais dans ce cas-là, la surveillance et la régulation sont beaucoup plus strictes.
Est-ce que la tentation de la corruption est plus forte lorsqu'on est maire d'une très grande ville ? Sans doute. Est-ce que la corruption est effectivement plus répandue ? Difficile à dire pour l'instant. On manque de données là-dessus, en dehors de quelques cas retentissants, là encore. Et ça tient à la méthode employée par Massimo et Pablo. Juste autour du seuil de 5000 habitants, on mesure bien ce que produit la discontinuité dans la rémunération. Mais pour des communes de très grande taille, c'est compliqué, parce que le contexte est très différent. Ne serait-ce que la taille des marchés publics, par exemple, qui se chiffre en centaines de millions et non plus de milliers d'euros. Et est-ce que les gens qui occupent ces fonctions sont moins honnêtes que les autres ? Difficile à prouver. Massimo et Pablo citent le cas des sénateurs et des membres du Congrès américain. Ils gagnent un traitement très élevé, de 250 000 dollars par an. Mais la majorité d'entre elles et eux gagneraient encore bien davantage dans le secteur privé en tant qu'avocat, le plus souvent. C'est d'ailleurs l'une des professions qui recrute beaucoup d'anciens membres du Congrès, peut-être pas seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leurs connexions. En définitive, Françoise Dreyfus fait remarquer que la proportion d'élus malhonnêtes est peut-être tout simplement indépendante de leur rémunération. En tant que fonctionnaire, de nos jours, on est extrêmement bien payé.
Le mot de ce soir est... sarcasme.
Ah,
et sarcasme.
Mais pour autant, est-ce qu'on échappe à la corruption ? Pas sûr. Et les rémunérations très élevées des dirigeants de grandes entreprises ne les empêchent pas, pour certains, de taper dans la caisse. Si même une sociologue spécialiste de la corruption vous assure qu'elle a du mal à voir le lien entre niveau du salaire et corruption, c'est sans doute qu'il ne s'agit pas du principal facteur en général. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde. Les pauvres élus, façon de parler, qui reçoivent des coups de pression de la mafia parce qu'ils acceptent moins ces bakchiches. Comment peut-on faire pour les protéger ? Pablo et Massimo sont assez pessimistes.
Oui, je pense que notre réponse ici va être assez décevante. En fait, je ne pense pas qu'il y ait une recommandation de mesures politiques immédiates et faciles à mettre en œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est que nos résultats suggèrent qu'il est très important de protéger les communautés locales contre le crime organisé. Mais vous savez, l'origine du problème, c'est quand l'État italien est incapable d'empêcher que la mafia ou d'autres organisations criminelles s'infiltrent dans les décisions politiques locales. Donc, je pense que notre conclusion, c'est qu'il y a des coûts élevés associés à un État faible qui n'arrive pas à combattre ces organisations criminelles. Et l'un de ces coûts, c'est qu'on peut se dire a priori que c'est une bonne chose d'augmenter le salaire des élus pour amoindrir la corruption dans les marchés publics. Mais que les effets de cette mesure peuvent être complètement effacés par l'augmentation de la violence qui s'ensuit. Ça peut décourager des maires honnêtes qui auraient sinon essayé d'avoir moins de corruption dans les marchés publics, mais qui se retrouvent victimes de violences en définitive.
Alors, conclusion. Est-ce que payer davantage les responsables politiques les détournerait de la tentation de se laisser corrompre ? Dans les pays, et plus particulièrement les régions où agissent des groupes criminels qui terrorisent les élus, il faut peut-être faire en sorte que ces derniers soient bien payés. Mais il faut surtout agir sur la cause du problème, la mafia. Et ce n'est pas simple. Même en Italie, l'opération Manipulite a d'abord été un succès, mais elle n'a pas empêché la corruption de reprendre du terrain, même auprès d'un type aussi irréprochable en apparence que Silvio Berlusconi. De manière générale, on peut s'accorder sur le fait que les élus locaux et locaux gagnent très mal leur vie, et que leurs fonctions politiques ne leur suffisent pas. Est-ce que c'est grave ? Seulement si certains et certaines en profitent pour taper dans la caisse. Autant éviter que ce soit le cas en les surveillant un peu mieux, par exemple, avec des commissions spécialement prévues à cet effet. Ça ne pourra pas être généralisé pour les milliers de très petites communes. Mais je vais vous confier un secret. À part les gens qui font de la politique, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'il y a trop de communes en France, donc trop d'élus. On pourrait même en regrouper quelques-unes et, oui, supprimer carrément des conseils municipaux. Pour les échelons les plus élevés, dont on a finalement peu parlé ici, la rémunération n'est pas le principal incitant. Françoise Dreyfus fait observer que, compte tenu de son niveau de responsabilité, le président de la République est extrêmement mal payé. Il gagnerait 100, 1000, 10 000 fois plus à la tête d'une firme multinationale. Ne le dites pas trop fort aux militants macronistes, ils seraient capables de réclamer qu'on multiplie par 100 l'indemnité de leur chef. En tout cas, ce n'est pas en augmentant leur rémunération qu'on luttera contre leur éventuelle corruption. C'est en luttant directement contre celle-ci avec des tribunaux dédiés, comme le parquet national financier par exemple. Au moment où j'enregistre cet épisode, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est inquiété par la justice pour des faits liés à des marchés publics, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vient d'être relaxé par la Cour de justice de la République pour des faits de prise illégale d'intérêt. Ça prouve bien que la corruption politique en France se situe dans les échelons les plus élevés, ce qui rend encore plus difficile de lutter contre elle. Si vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain! Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jolin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Chargée de production, Mathilde Jolin, avec l'aide de Lila Bordelais.